Et il est 18h17, c'est à nous de jouer.
Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, c'est l'Inde qui nous intéresse avec un Narendra Modi qui est en France. Au terme de 3 jours en Europe, pas moins de 8 chefs d'État lui ont serré la main. L'Europe voudrait qu'il lâche Moscou et renforce ses liens avec nous. Mais Modi a une partition d'équilibres régionaux à jouer aussi, et on y vient tout de suite. Le bruit du monde ce soir est en Roumanie, vous irez vous entraîner avec les militaires français stationnés ici dans ce pays membre de l'OTAN et frontalier de l'Ukraine. Le bruit du monde, la suite sous les radars, Corinne Audouin a trouvé une sécheresse historique en Éthiopie, un drôle de prophète en Palestine et un tartan écossais qui change de couleur. 18h50, le cinéma en VO et Corinne Pellissier avec Varsovie 83, l'histoire d'un procès qui a marqué la Pologne dans les années du RSS. 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four et Israël en porte-à-faux après les propos démentiels du russe Lavrov sur le sang juif d'Hitler. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Es. Un jour dans le monde.
Bonsoir Christophe Jaffrelot.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche aux séries Sciences Po, spécialiste de l'Inde. Votre dernier ouvrage s'appelle « L'Inde de Modi, national populisme et démocratie ethnique » paru il y a presque 2 ans maintenant chez Fayard. Christophe Jaffrelot, je le disais, Narendra Modi est donc en France, mais il est surtout en Europe. Il a d'abord vu le chancelier allemand, il a assisté à un sommet Inde-Pays scandinaves à Copenhague, il aura vu 8 chefs d'État ou de gouvernement et... Ça n'a échappé à personne. Nous sommes en pleine guerre en Ukraine. Nous voulons qu'il distende ses liens avec Moscou. C'est ce que disent les Européens. Mais lui nous dit quoi, en fait? Est-ce qu'il nous dit, vous êtes gentil, mais vous ne pouvez pas faire sans nous, les Indiens, désormais? Est-ce que c'est un peu ça qu'il a dans sa besace?
D'une certaine manière, oui. Mais vous avez tout à fait raison de resituer cette visite dans son contexte. Et on peut dire un mot ou deux supplémentaires pour... Les auditeurs qui auraient manqué un épisode récent, l'Inde s'est abstenue à 3 reprises à l'ONU au cours des dernières semaines, se refusant systématiquement à condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et cela pour plusieurs raisons, 2 principalement. Premièrement, l'Inde dépend de la Russie pour ses fournitures d'armes à hauteur de 70%. Elle ne peut pas se permettre de s'aliéner voilà, ce partenaire. Et ça, c'est un héritage évidemment de l'amitié indo-soviétique qui a été nouée dans les années 70. Et puis deuxièmement, et ça rejoint votre question, l'Inde aspire à un monde le plus multipolaire possible. Mmh. Et dans ce monde multipolaire, la Russie a toute sa place. Elle veut pouvoir jouer des partenariats qu'elle a conclus les uns après les autres et parfois s'associe aux États-Unis, parfois s'associe à la Russie, parfois s'associe à l'Europe. Et donc que la Russie reste dans le jeu, reste une puissance, est pour elle tout à fait important. C'est ça que Modi est venu expliquer aux Occidentaux et notamment aux Européens qui, comme vous le dites, aimeraient voir les liens entre Delhi et Moscou se distendre.
Mais, avant de voir ce que chacun a mis dans sa besace, est-ce que vous diriez, Christophe Jaffrelot, que le refus de prendre position de la part de l'Inde est aussi très culturel? Enfin, il y a tout un pan d'histoire qui parle de non-alignement initié par Nehru. Ça vient de très loin, en fait, ce refus de choisir un camp pour les Indiens.
Bien sûr, c'est un héritage qui remonte aux années 40, lorsque la guerre froide se cristallise et que 2 blocs se forment et que l'Inde refuse d'en être. Elle n'est pas la seule d'ailleurs, la conférence de Bandung avec l'Indonésie, ensuite l'Égypte, bon, c'était tout un ensemble de pays qu'on a appelé le tiers-monde, c'est pas par hasard, c'est qu'ils étaient justement la troisième voie. Il y a une différence quand même, c'est que pour Nehru, il ne s'agissait pas d'être neutre, il ne s'agissait pas d'être pragmatique, opportuniste, de jouer l'un puis l'autre, un partenariat puis l'autre. Il s'agissait de promouvoir des idéaux, des valeurs. Et l'Inde d'ailleurs, l'Inde de Nehru, on l'a oublié maintenant, mais pouvait s'entremettre pour régler des conflits. C'est à l'Inde qu'on s'est adressé pour faire les médiateurs dans la guerre de Corée. C'est à l'Inde qu'on s'est adressé pour aussi s'occuper de l'Indochine dans les années 50. De ce rôle-là, l'Inde n'a rien gardé. Elle est tombée dans une forme de neutralité qui est en fait opportuniste, en tout cas pragmatique.
Est-ce qu'elle peut retrouver là, sur cet épisode très circonstancié, est-ce qu'elle peut le retrouver, ce rôle de médiateur? Parce qu'après tout, les seuls qui parlent à Vladimir Poutine, c'est Emmanuel Macron au nom de l'Europe, mais on sait ce que ça donne pour l'instant. Ce sont les Turcs qui accueillent notamment les face-à-face, mais qui pour l'instant ne donnent rien. Est-ce qu'on se dit qu'il peut jouer ce rôle-là? Est-ce qu'il en a envie, en fait, Narendra Modi? Est-ce que ça lui donnerait une place, on va dire, sur la scène internationale qu'il voudrait? Ou est-ce qu'il dit surtout pas ce fardeau-là?
Alors, c'est un très bon test, en vérité, cette crise. Parce que justement, on pourrait imaginer que l'Inde s'entremette et soit le pont entre l'Occident et la Russie qu'elle dit être, en vérité. Ou en tout cas, elle prétend être équidistante. Mais entre être équidistant et être un pont, il y a une marge. Et c'est un test pour l'autorité internationale de l'Inde. Encore une fois, Nehru l'avait, il avait le prestige. Il était le fils spirituel de Gandhi, ce n'était pas rien. 70 ans plus tard, on ne voit pas l'Inde nécessairement crédible dans cette vocation. Et c'est intéressant de le souligner parce que, non, c'est un rôle que l'Inde aimerait beaucoup jouer, bien sûr, plutôt que de voir un fardeau dans une telle fonction.
Alors, je reviens à ce que, au début de notre discussion, qu'est-ce qu'elle a dans sa besace, l'Inde? Est-ce qu'elle arrive là avec des Européens, effectivement, on le disait, qui aimeraient tellement que l'Inde choisisse un autre camp, choisisse celui de l'Europe? Qu'est-ce qu'on a dans notre besace? Qu'est-ce qu'on lui apporte à Narendra Modi? Il y a déjà un accord qui a été signé avec les Allemands, d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui promet?
Alors, on lui promet d'abord de l'épauler au plan stratégique et militaire. Et là, le « on », c'est d'abord la France. C'est-à-dire que le partenariat stratégique entre la France et l'Inde, qui remonte à 1998 maintenant, il est d'abord fondé sur des ventes d'armes, sur des manœuvres conjointes dans l'océan Indien, sur l'accès à nos bases militaires de La Réunion et de Djibouti. Pour l'Inde, c'est très important. C'est très important parce que justement, elle cherche à diversifier ses approvisionnements en armes, hein, et donc s'émanciper de la Russie, ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, c'est très important. Et ne pas s'en remettre aux Américains non plus, parce qu'on craint les sanctions américaines qui sont comme des couperets lorsque le Congrès est obligé, entre guillemets, de suspendre des livraisons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'Europe apparaît comme une puissance de l'Indo-Pacifique. Alors à nouveau la France, au premier chef bien sûr, hein, mais ça intéresse aussi l'Allemagne qui a maintenant une feuille de route pour l'Indo-Pacifique. L'Union européenne elle-même s'est donné une feuille de route pour l'Indo-Pacifique. Et donc que l'Inde puisse compter sur l'Europe dans l'Indo-Pacifique, qui est la zone prioritaire maintenant pour pratiquement toutes les diplomaties du monde, c'est très important et ça permet de contrebalancer le Quad, dont l'Inde fait partie, mais dont les leaders sont quand même les Américains au premier chef. Donc il y a là de la géostratégie. Et puis troisièmement, il y a bien sûr des considérations économiques. Alors là, on en parle davantage avec les Allemands, qui sont le grand investisseur, le grand partenaire commercial. Et l'Inde a besoin, elle a absolument besoin d'investissements étrangers. Son économie est en chute libre. On vient d'apprendre, c'est la Banque centrale indienne qui nous l'a dit, que l'Inde retrouverait son niveau d'avant la pandémie qu'en 2035. Ça veut dire des millions de personnes rejetées dans la pauvreté et qu'il va falloir en ressortir.
Mais alors, c'est un peu curieux à demander comme ça, Christophe Jaffrelot, mais de quel côté penche la balance? C'est-à-dire, qui est celui qui mène la discussion? Est-ce qu'on est vraiment à 50-50 dans nos deux intérêts respectifs entre nous, l'Europe, on va dire pas seulement la France, mais nous, l'Europe et l'Inde?
Oui, c'est un peu, on se tient par la barbichette. C'est-à-dire qu'on a quand même chacun un intérêt à ce que l'autre soit on board, comme on dirait, qu'on tire dans le même sens. Et c'est un peu logique parce que on a deux puissances allez, on va dire moyenne, hein, de deux puissances d'équilibre, qui elle aussi, l'Europe et l'Inde voudraient voir le monde multipolaire devenir la norme. Et donc, je pense que chacun cherche à profiter de ce rapprochement, sans que pour l'instant, il faut bien l'avouer, on ait atteint ses objectifs. Il n'y a toujours pas d'accord de libre-échange entre l'Inde et l'Union européenne. Ça fait un an qu'on a décidé de relancer les négociations. Le commerce entre l'Inde et l'Union européenne est aussi très bas. On n'est pas sur la même longueur d'onde dans quantité de dossiers, à commencer par la diplomatie climatique, pour ne prendre qu'un exemple. Hein. Oui. Donc, on se parle beaucoup, on fait comme si on avait besoin l'un de l'autre, mais pour l'instant, on n'est pas parvenu à grand-chose.
Vous avez cité le Quad, cette fameuse alliance qui a été ravivée pour contrer la Chine et dont les États-Unis sont en tête de pont, on va le dire comme ça. Est-ce que la pression américaine sur l'Inde est une pression encore plus importante que la nôtre? Comment ça se situe, ça? Qu'est-ce qui joue comme partition, oui, Joe Biden vis-à-vis d'eux?
Oui, il est plus cash. C'est-à-dire qu'il y a un sujet aux États-Unis, du côté des démocrates, qui reste sacré, en tout cas pour les plus purs des démocrates, c'est la démocratie. Ce sont les libertés, notamment religieuses, qui sont bafouées en Inde aujourd'hui. Les Européens sont beaucoup plus discrets. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas. Il y a quelques jours, en fait, hein, Eamon Gilmore, l'envoyé spécial de l'UE pour les droits de l'homme, est allé à Delhi rencontrer des responsables d'ONG, des académiques, pour prendre la température. Et on sait que son rapport sera repris, notamment au Parlement de l'Union européenne, qui est très regardant sur ces questions de droits de l'homme. Mais voilà, c'est à ce niveau-là qu'on en parle, des droits de l'homme en Europe. Mm-hmm. Ce ne sont pas les gouvernants qui vont, comme l'ont fait récemment Blinken et Harris, soulever la question en public. On le fera peut-être en privé, et c'est même pas sûr. Parce que on ne se sent pas les reins assez solides, les épaules assez larges. C'est d'ailleurs assez pathétique, hein, de voir les Européens regarder leurs chaussures quand on parle droits de l'homme. Hein. Mais c'est quand même la réalité, il faut la souligner. La pression américaine, elle est plus forte de ce point de vue-là. Et puis elle est surtout plus forte du point de vue de « vous êtes avec nous ou contre nous ». Ça, c'est quelque chose que les Américains disent, ils ont toujours fonctionné comme ça, que les Européens ne disent pas, et les Indiens l'apprécient énormément, parce qu'ils ne veulent pas choisir leur camp.
Quand même, sur la question des droits de l'homme, Christophe Jaffrelot, enfin, on sait ce que c'est que ce pays, l'Inde, quand même un leader populiste, très très populiste, même qui fait vivre un enfer à sa population musulmane. Et on a vraiment le sentiment que dans ces discussions-là, dans ces trois jours qui viennent de s'écouler, cette visite éclair, on a vraiment mis ce sujet intégralement sous le tapis. Ça veut dire que de ce point de vue-là, il a les mains entièrement libres, vis-à-vis de nous, en tout cas Narendra Modi.
Vis-à-vis de nous. Vis-à-vis de nous, à l'exception, je le répète quand même, du Parlement européen, qui, il y a un an exactement, a voté une résolution très sévère, sans précédent, très critique, montrant que certains suivaient les dossiers. Hein, les dossiers des prisonniers politiques, les dossiers des minorités musulmanes, chrétiennes, les dossiers de la liberté de la presse. Vous avez vu d'ailleurs que RSF, hier, a encore dégradé l'Inde, qui est maintenant au 150e rang sur 180 en termes de liberté de la presse. Bon, mais nos gouvernants ne sont pas ou ne se sentent pas en situation pour parler de cela, et du coup, on glisse, comme vous le dites, sur ce genre de sujet.
Mais ça veut dire qu'on parie sur l'Inde, Christophe Jaffrelot. On parie sur l'Inde au-delà de Modi. Donc dans le monde d'après, et quand je dis monde d'après, c'est le monde après guerre en Ukraine, dont on ne sait pas effectivement à quel moment il commence, ce monde d'après. On fait un pari sur la grandeur de l'Inde, on fait un pari sur sa place géostratégique, en se disant, les dirigeants passent de toute façon. En creux, c'est ce que j'entends dans ce que vous nous dites.
Oui, on fait un pari sur l'Inde, même si le dirigeant qui suit est de la même acabit. Parce que on n'aura jamais une Inde qui fera aussi peur que la Chine. C'est aussi simple que cela. Donc on a besoin, se dit-on, d'une Inde qui fasse contrepoids à la Chine dans le monde d'après, comme vous dites. Et ce monde d'après, il a commencé, il est là. Et il va durer longtemps, il va durer au moins le 21e siècle.
contrepoids à la Chine. Il faut rappeler aux gens qui nous écoutent, parfois il faut regarder une carte pour comprendre les choses. L'Inde partage aussi une frontière avec la Chine du côté de l'Himalaya. Donc il y a des choses qui s'entremêlent dans ce pays, qui sont évidemment moins simples que peut-être même ce qu'on leur demande. Je me demandais, moi, quel était l'état des relations très typiquement entre Emmanuel Macron et Narendra Modi. Est-ce que le fait qu'il soit là, le premier dirigeant qu'il rencontre alors qu'il vient d'être réélu, c'est un hasard de calendrier, celui de Narendra Modi, ou est-ce qu'on y met plus de charges?
Il y a sûrement un hasard de calendrier, mais il est bienvenu, ce hasard, parce que ce sont deux hommes qui, visiblement, s'apprécient, ont développé une relation personnelle. Ça s'était déjà vu, d'ailleurs, lors de la visite de Macron en 2018 en Inde. La France est sans doute le pays européen avec lequel l'Inde a la relation la plus étroite, et Narendra Modi a amplifié ce rapprochement.
Mais j'en viens au point précédent. C'est l'effet rafale, pardon, monsieur. Allez-y.
Oui, l'effet rafale, effectivement, mais qui va être suivi d'autres, probablement. Ouais. J'en viens d'un mot sur ce que vous évoquiez juste auparavant, la géographie, la géopolitique de l'Inde. Effectivement, cette pression chinoise que nous, on ressent de très loin, l'Inde la vit au quotidien. Donc le besoin de trouver des partenaires face à la Chine, il est omniprésent. Et là, on retrouve la Russie dans l'équation, parce que être proche de la Russie, ou en tout cas ne pas s'aliéner à la Russie, c'est pour l'Inde une façon d'éviter que Moscou ne se rapproche de Beijing trop vite. Essayer de garder ce partenariat-là. Et au mois de juin, on va avoir une photo de famille incroyable. On va avoir Modi entre Xi Jinping et Poutine lors du sommet des BRICS. Et peu après ou peu avant, j'ai un problème de calendrier, c'est au sommet du G7 que se retrouvera Narendra Modi. À l'invitation de l'Allemagne. Vous allez voir donc dans le même mois, Modi aux côtés de Biden et Modi aux côtés de Poutine. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait symptomatique des efforts de l'Inde pour rester équidistant entre les puissances rivales.
Et du coup, en guise de conclusion, quoi que l'on puisse dire effectivement de ce dirigeant-là, est-ce que vous diriez que c'est un bon stratège diplomatique, Narendra Modi, que de ce point de vue-là et du point de vue de sa diplomatie, c'est un bon stratège et pour son pays, il fait du bon boulot?
L'avenir le dira. L'avenir le dira, parce que jusqu'où peut-on ne pas être proche des Américains lorsqu'ils vous demandent de choisir votre camp? Jusqu'où est-ce que la Russie restera une puissance utile à l'Inde? Jusqu'où est-ce que la Russie pourra véritablement alimenter l'Inde en une technologie militaire de pointe? Là, en ce moment, les Indiens sont un peu inquiets de voir la manière dont les armes russes ne font pas aussi mouche qu'on l'espérait du côté de Moscou en Ukraine. C'est un pari, cette équidistance, cet effort pour rester à égale distance des deux grandes puissances. Il peut échouer et seul l'avenir nous le dira.
Eh bien, ce sera la phrase de conclusion, Christophe Jaffrolo, directeur de recherche au CIRIS Sciences Po. Merci beaucoup. Merci de votre passage chez nous.
Merci à vous.
Le 18-20, Fabienne Synthèse, sur France Inter.
La suite, ce soir, c'est le bruit du monde en Roumanie avec un régiment français qui s'entraîne dans ce pays de l'OTAN, frontalier de l'Ukraine, faut-il le rappeler, et pour aller jusqu'à 19h sous les radars. Corinne Audouin.
On ira en Éthiopie où la sécheresse fait des ravages. Bien sûr, c'est récurrent dans la Corne de l'Afrique, mais là, ça s'accélère et cela menace le mode de vie des nomades éleveurs de la région.
Le cinéma en VO et Corinne Pellissier avec Varsovie 83 qui raconte un procès bâclé dans la Pologne des années Jaruzelski. Et le monde d'après, c'est vous Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir à tous. Israël s'est montré très prudent depuis le début de la guerre en Ukraine, mais Israël se retrouve en porte-à-faux après les propos russes délirants sur le sang juif d'Hitler.
Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète continue, il passe par la Belgique avec le duo électropop et tout en couleur, Charlotte Adigéry et Boris Poulpoul, Making Sense Stop, c'est sur France Inter.
Parfois je me sens fâchée. said and done. You need to welcome your intuition. Make room for your own subconscious mind. The liberty of saying nothing, but also really meaning it. Words are my refuge, silence is scary. Welcome your words and your intuition to own the silence and say goodbye. My room for refuge is really scary, but also meaning to embrace time. Is liberty the first thing? Done saying words, make silence flow. Set the subconscious.
Du monde ce soir est en Roumanie, en Transylvanie précisément, dans un immense camp d'entraînement. C'est là qu'une partie des forces françaises stationnées là-bas a pris ses quartiers depuis environ 3 semaines. Il va sans dire que la Roumanie est un pays de l'OTAN et frontalier de l'Ukraine. Voici le régiment 93 d'artillerie de montagne sorti pour un parcours d'obstacles. Et le reste, c'est Paul Kosygian qui raconte.
On est avec le sergent-chef Benoît.
Et voilà.
Vous ressemblez un peu à Harrison Ford.
C'est gentil, merci.
Vous avez fait quoi ?
Une séance de passage d'obstacles pour se préparer à combattre.
1 heure de course. Plus loin, le sergent Arnaud, tout content après cet entraînement.
J'aime bien toutes ces choses-là, quand il faut grimper, un peu d'agilité, je suis assez à l'aise dessus, donc j'en profite. Ici, on a le sport qui nous évacue beaucoup. Après, on s'entend tous très très bien, donc du coup, on rigole entre nous.
Ah, c'est l'heure du casse-croûte.
Peut-être, peut-être.
Ils repartent en camion. Une quinzaine de soldats environ, sous les regards d'un berger et de ses 400 moutons, habitués depuis au moins 5 années à tout ce va-et-vient des militaires. Bonjour, comment ça va la vie ?
La vie est assez dure, on fait du mieux qu'on peut, mais que voulez-vous ?
Ces gars-là, ils s'entraînent ici.
Eux, ils font leur travail. Moi, je fais le mien.
Et la Russie, qu'est-ce que vous en pensez ?
Pourvu que ça se termine le plus rapidement possible. Tout le monde le souhaite. Maintenant, j'espère que nous ne serons pas pris au milieu.
2 heures plus tard, changement de décor. Pour la première fois, un exercice grandeur nature avec tir de missiles de moyenne portée. Parmi les cibles, une vieille carcasse de char soviétique. Pour protéger l'infanterie de montagne, on envoie les VAB, les véhicules de l'avant blindés. À l'intérieur de l'un de ces engins, assis à côté du conducteur, le caporal-chef Rouen, radiotireur. Il accepte de porter un micro pour nous aider à mieux nous rendre compte de l'ambiance à bord.
Vas-y, tu peux y aller. Allez, go.
Sur les hauteurs de ce théâtre de guerre improvisé, le colonel Minguet, commandant de l'ensemble des opérations du bataillon Fer de Lance, explique les enjeux de ce genre d'exercice.
Il ne faut pas prendre la guerre pour ce qu'elle n'est pas et ce que l'environnement ne lui permet pas d'être. Ça, c'est la première chose. Et donc ça, il faut l'expliquer aux soldats. L'armée française, on est déployé assez souvent. Au Mali, on était face à des groupes terroristes armés, mus par des idéologies extrémistes. Ici, on est face à une armée d'État. Le contexte est différent. Et donc ça, il faut l'expliquer aux soldats. Alors, il ne faut pas se préparer de la même façon.
Le lendemain, un autre exercice pour les Français, toujours à balles réelles. Cette fois-ci, sous commandement roumain, le lieutenant Valentin.
Nous sommes ici dans une formule multinationale avec nos partenaires français et polonais. La pression est plus élevée, le niveau d'instruction a augmenté, nous nous entraînons plus souvent, avec plus d'exercices, des heures supplémentaires dans lesquelles nous nous entraînons conjointement afin d'être préparés à n'importe quel scénario.
Les militaires polonais font des rotations tous les 6 mois. Ils sont en Roumanie depuis 2018. Le commandant Premislav.
Aujourd'hui, nous nous préparons pour un exercice avec nos frères roumains et nos frères français. Je suis soldat depuis 22 ans. Si vous voulez la paix, vous devez vous préparer à la guerre. Nous devons être prêts pour toutes les situations. Nous pensons en particulier à ce qui se passe en ce moment en Ukraine et à ce que nous devons faire pour ne pas permettre à l'ennemi d'arriver jusqu'ici, sur le flanc est de l'OTAN. C'est très important.
Sous une pluie fine, dans la boue, un exercice de tir assez court, mais d'une très haute intensité. Le lieutenant-colonel Adrien est le chef des opérations françaises sur place à Tchinkou.
Donc on a vu trois sections consécutives de la même compagnie, 120 soldats et entre 12 et 15 véhicules. D'abord une section appui, donc qui est la section la plus lourdement armée de la compagnie, notamment en mitrailleuses, missiles anti-chars, mortiers. Et ensuite, on a vu des sections de voltige, qui elles ont plus l'armement du fantassin classique, fusil d'assaut, mitrailleuse légère, lance-roquettes. On essaye de rendre ces scénarios le plus réaliste possible, le terrain s'y prête.
Un exercice de ce type d'intensité a lieu chaque semaine, nous explique le colonel Minguet.
On a réussi à s'intégrer dans le paysage et puis à commencer à s'entraîner vraiment de façon intégrée avec les forces de l'OTAN.
Donc c'est rassurant.
Quand on renforce la défense, c'est qu'il y a quand même une menace en face. Donc c'est rassurant, oui, mais la menace existe.
Situé à une altitude entre 400 et 700 mètres, le camp d'entraînement de Tchinkou est le plus grand de Roumanie. 100 km² au moins. Dans les semaines à venir, il deviendra l'un des centres de gravité des forces de l'OTAN, désormais stationné de manière permanente dans ce pays. Et pour l'Europe, c'est le réveil, raconte ce chant des militaires français. Les brigadiers-chefs Max et Franck ont eu la gentillesse de l'entonner a cappella avant de nous quitter.
Les chacals craignent pour leur peau.
Eh-ya, oh oh. Car l'heure des comptes viendra bientôt. Et ya, oh 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 oh, aux écrins nous mettrons, claquant le vent notre fagne.
Allez, au revoir France Inter.
Eh bien, au revoir et merci pour le chant. Paul Cossiguian pour le reportage. Merci à vous aussi, on vous salue. La suite, le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale. Passez sous les radars et c'est Corinne Audouin. Et pour commencer, Corinne, nous sommes en Éthiopie, à l'hôpital de Godet, c'est dans l'est du pays. La région est ravagée par une sécheresse historique.
Oui, c'est là où vit le peuple somali qui est établi dans toute la corne de l'Afrique, avec encore beaucoup de semi-nomades qui vivent de l'élevage. Et le mois d'avril est normalement le plus arrosé, mais il n'est quasiment pas tombé une goutte de pluie depuis 18 mois. Les chèvres, les ânes, les vaches meurent de faim et de soif. Les dromadaires ont même perdu leur bosse qui est leur réserve de graisse. Or, le bétail représente toutes les ressources de ces Somalis et c'est tout un mode de vie qui est remis en question. Les sécheresses cycliques dans la région sont de plus en plus fréquentes. Mais avant, les éleveurs suivaient la pluie, ils déplaçaient les animaux vers les pâturages plus arrosés. Cette fois-ci, la sécheresse est partout et les puits sont vides. Cette femme de 38 ans a emmené son fils à l'hôpital de Godet. Il a des aphtes dans la bouche qui l'empêchent de téter. Elle dit qu'avec son mari, ils sont tellement occupés à chercher des pâturages et de l'eau pour le bétail que ça leur prend tout leur temps. Elle a même emmené son fils sans le dire à son mari parce que, dit-elle, il l'aurait empêché d'y aller. Alors les enfants payent le prix fort de cette sécheresse, précise l'organisation Save the Children. Ils sont déjà habituellement dans la région à la limite de la malnutrition. À Godet, on les traite avec des pâtes nutritives à base d'arachides. Les plus faibles sont hospitalisés. Et le sujet devrait être au cœur de la convention de l'ONU sur la lutte contre la désertification prévue à Abidjan du 9 au 20 mai. On estime que la famine menace cette année 20 millions de personnes dans toute la corne de l'Afrique.
Direction la Palestine, Corinne, avec une prophétie lancée par un prédicateur très populaire auprès des Palestiniens.
Il s'appelle Bassam Jarrah. Cet intellectuel islamiste poste régulièrement sur sa chaîne YouTube ses analyses religieuses. Il est suivi par 700 000 abonnés. Il a fait des calculs à partir des versets du Coran et il estime que l'État d'Israël va disparaître, rien que ça, d'ici le mois de juin prochain.
Alors les explications de Bassam Djarrar sont très complexes. Il part de la prophétie d'une vieille femme juive, de versets du Coran. Vous ajoutez à ça de la numérologie. Alors il reconnaît que la probabilité que sa prédiction se réalise est de 95%. Petite marge d'erreur quand même. Alors de Nostradamus à Paco Rabanne, en passant par le calendrier Maya, je vous rappelle qu'on devait tous mourir le 21 décembre 2012. L'histoire est remplie de prédictions cataclysmiques qui ne se sont pas réalisées. Mais ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que 3 Palestiniens sur 4 affirment y croire. Un sondage mené à Gaza et en Cisjordanie occupée et rapporté par le quotidien israélien Haaretz en atteste. Et pour le journaliste Ori Nir, si les Palestiniens y croient, c'est parce qu'ils sont profondément désespérés. La prophétie leur donne un espoir de se libérer de l'occupation israélienne. Une popularité qui inquiète sérieusement le renseignement israélien. Pour eux, ce fantasme de la destruction d'Israël contribue à l'actuelle flambée de violence en Cisjordanie.
Et puis on termine, ça n'a vraiment rien à voir avec un tartan qui fait fureur en Écosse. Il est bleu et jaune.
Aux couleurs de l'Ukraine, bien sûr, à Keith, dans l'est de l'Écosse, dans une fabrique de tartan artisanal. Vous savez, ces carreaux écossais qui ont égayé notre enfance, Fabienne. Je suis sûre que vous avez eu des petits kilts, vous aussi.
Oui, évidemment.
La société Great Scott tisse des tartans jaunes et bleus. Alors, je dois dire que c'est assez joli. C'était pas gagné, mais c'est pas mal. Et le tartan Ukraine pour toujours marche déjà très bien, avec 3,5 km de tissu vendu, notamment aux États-Unis et en Écosse. Beaucoup d'expatriés ukrainiens passent commande. Alors vous savez, chaque clan ou famille avait son tartan en Écosse et ce tissu symbolise un peu la défense de l'identité.
I want to put a kilt on Zelensky and tell him that he shake his hand and say that he is an honorary Scotsman.
Margot Page, qu'on vient d'entendre, c'est la créatrice de Great Scott. Et elle rêve, elle le dit, de faire porter un kilt bleu et jaune à Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien mérite le titre d'écossais d'honneur, dit-elle. Alors, business is business, me direz-vous, mais pas seulement. La production reste artisanale. Et pour chaque pièce vendue, Great Scott reverse une partie de l'argent à l'association Ukraine Humanitarian Appeal.
Eh ben, écoutez, comme ça, c'est bien dit. Merci beaucoup, Corinne Audouin. Je vous laisse partir avec Marianne Faithfull et Working Class Hero. C'est un peu comme le tartan, au fond, dans un autre genre, un très grand classique.
Nostalgique.
As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. You at school, they hate you if you're clever and they despise a fool, till you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be.
Marianne Faithfull, Working Class Hero sur France Inter. Le mercredi, c'est cinéma et c'est maintenant.
France Inter. Un jour dans le monde.
Wydaje mi się, że mamy drobny kłopot natury wizerunkowej.
związany ze sprawą niejakiego Grzegorza Przemyka.
Towarzysze, pozwolę sobie zaznaczyć, że mój resort jest niewinny.
Jest świadek.
Dans le cinéma en VO, direction la Pologne, ce soir dans les coulisses d'un procès qui a secoué le pays dans les années 80, celui d'un étudiant battu à mort par la police et dont le procès a été totalement saboté par le régime de l'époque. Bonjour à vous Corinne Pellissier.
Bonjour Fabienne.
Le film, Corinne, s'appelle Varsovie 83. C'est une histoire qui a déjà été racontée dans un livre enquête en 2017 et qui fait aujourd'hui donc l'objet d'un film. Et si c'est le cas, c'est pour que l'histoire, Corinne, ne se répète pas.
Voilà, c'est un film qui a été tourné bien avant la guerre en Ukraine. Mais les événements de ces derniers mois auront donné raison à son réalisateur, Jan P. Matuszynski, qui a voulu montrer à travers cette bavure la réalité de la vie en Pologne sous un régime totalitaire communiste. Pendant la loi martiale, sous le commandement du général Jaruzelski, les privations, les mensonges, les menaces, les opposants, les syndicalistes qu'on jetait en prison. Le film nous ramène dans les années 80, très précisément le 12 mai 1983, ce jour où a éclaté ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire Grzegorz Przemyk, du nom de cet étudiant battu à mort lors d'un contrôle de police. Le régime a longtemps prétendu qu'il était drogué, qu'il avait bu, puis plus tard que ce sont des ambulanciers qui l'avaient frappé en l'emmenant à l'hôpital. Mais il y avait ce jour-là un témoin oculaire, tout le film repose sur lui et nous raconte ses tentatives pour faire entendre la vérité. Les faits se sont produits il y a 40 ans, mais pour le réalisateur, on n'est pas à l'abri aujourd'hui d'une récidive.
Même si l'histoire que je raconte dans le film s'est passée il y a 40 ans, il me semble qu'elle est très pertinente et très actuelle, surtout depuis deux mois, en prenant en compte le contexte ukrainien. Je me rends compte que ce film était très important et bien plus important que j'avais pu le croire au début. En début, j'espérais faire un film historique, mais avec le temps, je me suis rendu compte que cette histoire était très actuelle et que ce film était comme un avertissement, que je voulais avertir qu'il ne fallait absolument pas revenir à ce qui s'était passé, surtout dans le contexte de l'Ukraine et de l'agression russe. Une avalanche de mensonges a eu lieu. C'est là que je me suis dit que l'histoire était plus actuelle que jamais, que j'aurais pu croire. Surtout en apprenant qu'en Russie, on pouvait être condamné à 15 ans de prison pour avoir dit la vérité. Donc ces événements éveillent en moi des émotions très fortes. Et ce qui me surprend depuis la première de ce film, Et qui me touche plus particulièrement personnellement, c'est que je me pose des questions sur mes enfants et sur leur avenir.
C'est une histoire importante, hein, Corinne, dans l'histoire de la Pologne, parce qu'en dépit de cette mascarade de procès, il y a des choses dans le pays qui ont changé.
Or, les policiers n'ont jamais été condamnés. Plus tard, quand on a voulu rouvrir l'enquête, les faits étaient prescrits, mais la mort de Grzegorz Przemyk et plus tard son procès ont entraîné un grand mouvement populaire assez inédit, des milliers de personnes qui sont descendues spontanément dans la rue pour manifester contre le régime. Jan P. Matuszynski était trop jeune pour s'en souvenir, mais dans sa famille, c'est une période qui a beaucoup marqué.
Je viens de la ville de Katowice, où la loi martiale a commencé. Et ce sujet revenait souvent dans les conversations qu'on a pu avoir chez moi. Donc, mes souvenirs du communisme, c'est surtout les années 90, car c'est tous ces changements qui ont nourri nos conversations avec ma famille, surtout que mon père était journaliste. Il avait donc un regard particulier. Et pour chacune de ces histoires,
je me suis posé des questions cruciales sur la peur, mais aussi sur la justice qu'on peut interpréter de différentes façons. Je me suis dit qu'aujourd'hui, cette situation aurait pu se passer même juste à côté.
Alors c'est un film assez long, il dure un peu plus de 2h30, mais il est passionnant parce qu'il nous raconte des tentatives d'intimidation, de pression, les fabrications de fausses preuves pour couvrir les policiers, empêcher aussi la tenue d'un procès équitable. On a changé de procureur, on a fait chanter les parents. Le résultat est précis, documenté et aussi très bien incarné. Ça s'appelle Varsovie 83 au cinéma. Donc Corinne, ce mercredi, merci beaucoup. Et c'est un film France Inter.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, depuis le début de la guerre en Ukraine, Israël s'est montré très prudent en évitant de sanctionner Moscou. Mais c'est peut-être en train de changer après la polémique déclenchée par le ministre russe des Affaires étrangères sur le prétendu sang juif d'Hitler. Et pour vous, ce conflit déclenche des effets en chaîne un peu partout dans le monde, notamment au Proche-Orient. C'est votre monde d'après.
Oui, depuis 48 heures, le torchon brûle entre Israël et la Russie. Le ton ne cesse de monter. Au départ, il y a donc cette interview accordée avant-hier par Sergueï Lavrov à l'émission de télévision italienne Zona Bianca. Le patron de la diplomatie russe entend justifier le fait que Moscou assimile le régime ukrainien au nazisme, alors que le président Zelensky est juif. Hitler aussi avait du sang juif, affirme Lavrov, avant d'ajouter « Les antisémites les plus ardents sont souvent les juifs eux-mêmes ». Torrent immédiat de protestation en Israël, le président Herzog demande des excuses, Yair Lapid, homologue de Lavrov et lui-même petit-fils de déporté, qualifie ses propos de scandaleux et impardonnables, il dénonce l'horrible erreur historique, le fait est qu'aucune preuve ne démontre cette vieille rumeur complotiste sur le sang juif d'Hitler. En réponse, Moscou remet de l'huile sur le feu. La porte-parole de Lavrov accuse Israël de soutenir le régime néo-nazi de Kiev, avant d'affirmer ce matin que des mercenaires israéliens combattent aux côtés du régiment ukrainien Azov. Azov, vous savez, c'est ce bataillon très controversé dont certains membres ont déjà arboré des insignes du Troisième Reich. À ce rythme-là, Moscou va finir par accuser l'État juif d'être un régime nazi.
Et alors, on en vient à se demander quelle mouche a piqué la diplomatie russe, Jean-Marc?
Oui, d'autant qu'Israël, répétons-le, a jusqu'à présent fait preuve de retenue en cherchant même à jouer les médiateurs. Donc pourquoi Moscou irait se brouiller avec l'un de ses rares points d'appui dans le camp occidental? Pourquoi tenir des propos aussi insensés en plus juste après Yom HaShoah, le jour de commémoration de l'Holocauste? Ce n'est pas une gaffe. Sergueï Lavrov est l'un des diplomates les plus chevronnés de la scène internationale. Il résiste à tout depuis 18 ans. C'est tout sauf un perdreau de l'année. Il sait ce qu'il fait. Donc il y a deux explications possibles. Et les deux en disent long sur l'état du pouvoir en Russie. Option 1, c'est de la simple obéissance au chef. Lavrov est un pragmatique plus qu'un idéologue. Il suit le sens du vent. Il reprend fidèlement le discours de Poutine sur le fait que tout ennemi de la Russie est un nazi en puissance. La voix de son maître. Option 2, c'est la traduction de l'enfermement idéologique du Kremlin. Tout est désormais ramené à une lutte contre le nazisme, ce nazisme dont l'Occident serait l'héritier et contre lequel la Russie serait le rempart, quitte à dissimuler l'antisémitisme rampant de l'époque stalinienne. Donc il n'y a plus aucune rationalité, juste une spirale inarrêtable, insensée pour justifier la guerre en Ukraine. Tout adversaire est un nazi potentiel, même s'il est juif.
Donc forcément, Israël se retrouve dans l'embarras.
Ouais, rappelons d'abord pourquoi Israël ménageait Moscou jusqu'à présent. Vu de Tel Aviv, l'ennemi numéro un, l'ennemi existentiel, c'est l'Iran. Et la Russie, maître du ciel en Syrie, laisse Israël frapper à sa guise les positions iraniennes sur le sol syrien. C'est un accord tacite, les batteries russes S-400 s'arrêtent quand passent les avions israéliens. En plus, ces dernières années, Benjamin Netanyahou avait fait ami-ami avec Vladimir Poutine, une solidarité d'hommes se voulant fort. Mais Netanyahou n'est plus au pouvoir et surtout, la question de la Shoah et des crimes nazis est au fondement même de l'existence d'Israël. C'est plus fondamental encore que la menace iranienne. Ce sont les nazis qui ont tué 6 millions de juifs et seuls les nazis étaient des nazis, a martelé Yair Lapid hier. Donc la position d'Israël à aménager la chèvre et le chou avec Moscou devient intenable. Difficile de continuer à marcher entre les gouttes de pluie, comme on le dit en hébreu. Puis si on ajoute qu'une délégation du Hamas palestinien, l'autre ennemi d'Israël, est actuellement reçue à Moscou, ça fait vraiment beaucoup. À quelques semaines d'une visite annoncée de l'américain Joe Biden, Israël commence à se dire qu'il faut peut-être sortir de la neutralité. La guerre en Ukraine, décidément, est un séisme dont les répercussions dépassent et de beaucoup le seul théâtre militaire des opérations sur le terrain. Par effet domino, elle rebat les cartes géopolitiques un peu partout. En Europe, c'est évident, mais aussi au Proche-Orient. Et ce n'est peut-être que le début.
Le monde d'après de Jean-Marc Four, tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup, Jean-Marc. Bien sûr, à demain. Pour nous, ça continue. Le 18-20, la suite, c'est le journal d'Hélène Filly. Et puis juste après, le téléphone sonne. Bonne soirée avec nous sur France Inter.